Merci beaucoup, bonjour à chacun, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dan Josseron, j'ai fait un CFC de boulanger-pâtissier et je suis divorcé, j'ai deux enfants, deux filles, Laureline qui a 10 ans et Johanny 6 ans. Mes hobbies c'est la batterie, j'aime beaucoup la batterie, les balades, le ski et aussi simplement partager et puis se laisser vivre au resto, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je tenais vraiment et sincèrement à remercier l'église de Lazare pour leur accueil. Quand je suis arrivé là, j'ai dit purée, mais tout ce qu'ils ont mis en place, les tables, la déco, enfin, ils prennent vraiment soin de nous et vraiment merci beaucoup aussi pour la confiance. Merci Salomé, merci Christian. C'est vraiment un honneur de pouvoir partager ça avec vous ce matin. Alors, moi j'ai grandi dans une enfance chrétienne. Je suis toujours allé à l'église le dimanche avec mes parents, j'ai fait les flambeaux, j'ai fait heureux comme ça avec Jean-François Bussy, enfin, j'ai fait plein de choses dans l'église, je me suis vraiment aussi impliqué. Et puis vers l'âge de 14 ans, je voyais plus trop l'intérêt, la motivation de continuer d'aller à l'église. Ça devenait presque une obligation et je me suis mis un peu en mode rebelle et... J'ai tout envoyé péter. Franchement, j'ai dit à mes parents, ça me saoule de continuer d'aller à l'église. Et j'ai commencé à fumer la cigarette. Et petit à petit, le joint est arrivé derrière. Et petit à petit, il m'en fallait toujours plus. Donc là, on commence à rencontrer des femmes, on couche avec des femmes, on fait plein de choses pas très belles. Mais en moi, il y avait quelque chose que j'arrivais pas à combler. Il y avait un vide intérieur. Que toutes ces choses que le monde y donne, j'arrivais pas à trouver réponse, à avoir vraiment une paix, une joie, un amour. Et puis, j'ai posé une fois la question à mes parents, simplement. Je leur ai dit, j'arrive pas. Je leur ai pas tout expliqué ce que je viens de vous dire, parce que je me sentais vraiment sale à cette époque-là. Et ils m'ont simplement dit, viens, il y a une soirée de louange à Genève. Il y a Corinne Lafitte qui vient faire, c'est sur le thème israélien. Et j'ai dit, ok, laissons-nous tenter. Donc là, j'avais à peu près 18 ans. Et j'ai dit, allez, go. Et je suis allé à cette soirée, je me suis assis à côté du batteur. Et il faisait vraiment un rythme entraînant israélien et tout. C'était vraiment, on avait envie de se lever, puis de sauter. Puis j'avais vraiment senti une joie, mais juste dans sa façon qu'il jouait, quoi. Ah, j'étais là, waouh, c'est génial et tout ça. Et puis j'ai dit, Seigneur, merci, parce qu'au travers de cette personne, tu as touché mon cœur. Et cette joie, je veux la vivre en permanence. À la fin de la soirée, j'ai couru aux toilettes, je me suis vidé. C'était vraiment, je me suis purifié de l'intérieur, on va dire ça comme ça, pour rester poli. Et j'ai dit, cette fois, je mets quelque chose en route. Et j'ai décidé de remettre ma vie en ordre. Et c'est pas facile. Mais c'est pas impossible. J'ai pris la décision de me faire baptiser en 2006. Et j'ai décidé d'arrêter la cannabis. Et là, il y avait un collègue de travail qui était chrétien, qui a été délivré de beaucoup de drogues. Il m'a dit, si tu veux, je prie pour toi. Et tu verras, ça va aller. Mais moi, je n'avais pas encore vraiment vécu des choses perso avec Dieu, si ce n'est le fait qu'il m'ait touché pendant cette soirée. Et j'ai dit, non, je ne le sens pas. Je n'avais pas la paix en moi. Le Seigneur est revenu, deux semaines après. Ah, tu devrais quand même demander la prière. Ok, ça me saoule, mais je le fais. On était au bureau, on était assis, et j'avais envie d'arrêter, mais pas de cette manière-là. En fait, je voulais, ce que j'ai fait souffrir à Dieu, je voulais souffrir moi pour pouvoir être libéré. Vous voyez un peu le mécanisme, comme si j'étais redevable à Dieu. Mais je me suis laissé, je me suis laissé impacter par sa présence, par son amour, par sa délivrance, sa guérison. Et j'ai vraiment senti un vide en moi. Et c'est sorti. Et j'ai plus jamais retouché la cannabis. Et j'ai fumé pendant 8 ans. Et du jour au lendemain, bam, premier miracle. Suite à ça, j'ai pu aller témoigner dans différentes églises de ce que j'ai vécu par rapport à cette délivrance. Et j'ai rencontré ma femme aussi par la même occasion. Et puis là, j'étais un peu tiède. Vous savez, vous avez un pied qui veut aller devant, puis il y a l'autre qui est encore un peu... il est comme ça, et puis on ne sait pas trop oui ou non, quoi. Et avec ma femme, on a commencé... Enfin, on n'était pas encore mariés, pardon. On a commencé à avoir des relations sexuelles avant le mariage. Donc là, ça recommençait un peu les délires. On savait qu'on ne faisait pas juste au niveau de la Bible, au niveau de tout ce qu'on nous disait et tout ça. Et après, on a reconnu nos torts, on a demandé pardon. On a vraiment demandé pardon devant Dieu par rapport à ce qu'on avait fait. Et puis, bien sûr, ça s'est su dans l'église parce qu'elle est tombée enceinte. Et du coup, on est retourné une fois à l'église. Et vous savez, c'est comme si vous rentrez en dernier dans une salle, ça fait... Et il y a tout le monde qui se retourne. Et là, j'ai vraiment senti un regard sur nous, mais de jugement. Oh. J'ai dit, mais c'est quoi cet amour? Pour moi, ce n'est pas de l'amour. Non, ce n'est pas Dieu, ça. J'ai dit, plus jamais je mets les pieds dans une église. Cette fois, c'est fini. Je ne veux plus vivre ça. Si c'est ça l'amour de Dieu, moi, je préfère passer du temps à faire mes hobbies, à faire mes choses dehors. Et puis, Dieu, pour moi, il n'a pas d'importance. L'accueil est très important. Et puis, suite à ça, on a quand même décidé de se marier. Parce qu'il y avait un enfant et tout. On a dit, on va quand même se marier, remettre les choses en ordre dans notre vie, commencer à faire quelque chose, à avancer. Et au même moment, j'ai repris une boulangerie à Bassin, en dessus de Benien, pour ceux qui connaissent. Et puis là, ça faisait beaucoup de travail en tant qu'indépendant. J'ai fait 3 ans sans congé. Les vacances, je les compte sur le bout des mains, sur le bout des pieds. Voilà. Et du coup, je me suis éloigné de Dieu encore une fois. Je priais seulement quand ça allait pas. Je priais seulement quand j'avais quelque chose à lui demander. Et ça a duré à peu près 2 ans, cette routine-là. Donc, je survivais, on va dire ça comme ça. Et là, la boulangerie, elle a commencé à bien tourner. J'ai commencé à souffler. Je voyais que mes efforts, ils commençaient à payer. Et le premier enfant est arrivé. On en a mis un deuxième en route. Et malheureusement, elle a fait une fausse couche. Et suite à ça, ma femme, elle s'est pas sentie soutenue par rapport à moi. Une confiance et une sécurité, ça s'est vraiment brisé entre nous. Et du coup, j'ai trouvé un refuge, mais pas en Dieu, dans la pornographie. C'est facile d'aller sur son téléphone et puis, allez, on va vite scroll un petit coup et puis, let's go. Et puis ça, je me suis senti toujours plus sale, plus honteux. Et pourtant, j'avais donné ma vie à Jésus, je voulais suivre Jésus. Mais, ça n'allait pas avec ce que je vivais, ce que je voulais faire, par mes propres forces, par mes propres forces. Du coup, bien sûr qu'un jour, ma femme, elle est tombée sur l'historique. Elle a dit « Ciao, je pars ». Ça a duré 3 mois. On a quand même décidé de faire une thérapie pour couple. Merci beaucoup. Vive la start-up. Et puis, après, on a décidé d'aller sur une réconciliation et on s'est remis ensemble. Suite à ça, on a dit on ne va pas rester sur un échec, on va faire un troisième enfant. Et là, la grossesse a été très dure. Elle a été alitée pendant 7 mois. Pendant 7 mois, elle ne pouvait plus bouger de son lit. Elle s'occupait encore de la compta, des choses qu'elle pouvait faire sur un ordi, mais tout le reste, le ménage, aller fermer le magasin, les commandes, j'en passais des meilleurs, c'était tout pour moi. Et je me suis senti, j'étais là, mais je fais quoi ici? C'est pas une vie pour moi. C'est pas possible de vivre comme ça. C'est quoi le but? Il y a autre chose, j'espère qu'il y a autre chose. Et finalement, le bébé est arrivé en bonne santé, mais c'était pas fini pour autant. Je pensais que ça allait s'améliorer avec cette arrivée d'un nouvel enfant, un nouveau souffle. Et en fait, ça a saturé. Il y avait vraiment eu des problèmes, plus d'éloignement entre nous. On se parlait presque plus. On se mettait souvent en colère pour des petites choses, mais juste pour aller chercher la petite bête chez l'autre. Et puis après, il y a eu la boulangerie qui a commencé à avoir des problèmes de personnel. Et là, je me suis fait 10 mois à 7 jours. Et j'arrivais plus. Et j'ai commencé à boire de l'alcool. J'étais à peu près à 2 litres et demi de bière par jour. Voilà, un peu pour vous donner. Et suite à ça, j'ai commencé à avoir une douleur au foie. Et je ne voulais pas aller chez le médecin parce que je savais qu'il allait me dire qu'il faut que vous arrêtiez. Je savais. Dieu me parlait déjà, comme il l'a toujours fait. Et ma femme m'a quand même convaincu d'aller là-bas. Et je suis allé chez le médecin. Et le médecin, il m'a clairement dit, si vous arrêtez pas dans les 6 mois, vous êtes en 4 planches, monsieur. Sous la terre. Au revoir. Ouh, j'ai dit, ah ouais, quand même. Au moins, il m'a dit les choses. Et j'ai dit, ok, bah stop. Et avec tout ce que j'avais investi dans la boulangerie, tout ce qui s'est passé, bah, on a dû prendre une décision d'arrêter la boulangerie. Ça faisait 7 ans et demi qu'on était indépendants, que voilà. Je me suis vraiment investi à 200% pour ça. Et stop. Bim. Une claque. Donc, j'ai trouvé un nouveau travail après, comme ouvrier. Et puis là, je me suis dit, allez, le nouveau souffle va vraiment s'accomplir. Eh ben non. On est le 28 janvier 2021, juste après Noël, génial, les fêtes en famille et tout ça. Et ma femme me dit, écoute, je crois qu'on va arrêter. Ouh. Alors là, je suis sorti de la maison et j'ai fumé cigarette sur cigarette, ça n'arrêtait pas. J'étais là, mais pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait encore, qu'est-ce que j'ai fait encore? Culpabilité, allez, on remet une couche. Donc j'ai dit, ok, stop, moi je pars de la maison. Ma fille était déjà scolarisée dans la commune pour que, pas que ça l'impacte, elle. Je suis parti de la maison. Je me suis trouvé une petite chambre, le temps qu'elle réfléchisse. En 3 mois, elle avait pris sa décision. Elle m'a dit, bah, on arrête là, on part sur un divorce. Alors moi, je ne suis pas pour le divorce, hein, mais j'ai respecté son choix. Ça s'est terminé qu'on a signé à côté la convention de divorce chez le juge. On n'a pas pris d'avocat, ça s'est vraiment passé dans la paix et dans l'amour, même si ça a été dur. Et moi, j'ai décidé d'aller de l'avant. Donc, j'ai décidé de remettre mon pied droit et puis de faire ça. Et j'ai dit, il faut que je déménage, il faut que je change de maison. Cette maison où il y avait tous les souvenirs, où il y avait toutes ces choses, j'avais besoin de tourner la page. Et le jour où elle est partie, voilà, j'ai éternué. Et il n'y avait pas juste un santé. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de bruit. J'étais là, je suis tout seul, de nouveau. Et j'avais juste envie, c'était d'en finir avec ma vie, encore une fois, de me suicider. J'avais ce couteau qui était en face de moi, j'étais prêt à le faire, et puis je lui ai quand même envoyé un message pour lui dire au revoir. Simplement, au revoir. Et là, il y a ma mère qui est venue, heureusement, et on a pu prier ensemble, on a pu aussi discuter. J'ai beaucoup pleuré. Et voilà, ça me fait toujours quelque chose quand je dis « Maman, pardon ». Mais le Seigneur, après, il est venu vers moi et il m'a juste montré son amour. Et là, j'ai dit « Ok, bah, je déménage, je pars, je change de coin ». Et j'ai atterri à Écublanc-Fribourg. Et j'ai trouvé un travail sur Vevey, ça a duré 6 mois. Après, je me suis fait licencier. J'étais là « Ok ». Genre, tu fais une marche, tu décides de remettre en ordre ta vie, puis au final, bah, t'en fais 2 en arrière, quoi. Et puis là, bah, je m'en souviens, le dernier jour de mon travail, le lendemain, j'étais assis dans mon canapé, j'étais dépité, quoi. J'étais là, je fais quoi? Je fais quoi de ma vie? C'est quoi le but de cette vie? Pourquoi on est là? Et j'ai recommencé à fumer des joints. Et je savais où ça allait m'amener. Je le savais très bien. À la mort, je le savais. Mais on se dit, ah, peut-être qu'il y a un petit échappatoire. Ça a duré 2 semaines. Et puis un matin, je me suis levé et j'ai dit, cette fois, j'en ai marre de cette vie. J'en ai marre d'être en survêtement et qu'il ne se passe rien dans ma vie. Moi aussi, je veux vivre quelque chose. Pas juste les autres, mais moi aussi, je veux vivre quelque chose. Je me suis douché, je me suis habillé. Je me suis fait tout beau. Je me suis assis dans mon canapé et j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et j'ai aligné tout ce qui me venait, tout ce que le Saint-Esprit me disait sur mon cœur. Je l'ai sorti. Simplement demandé pardon. Je suis avec mon gros sac poubelle vers Jésus. Et je lui ai donné. C'est sale, hein. Mais Jésus l'a pris. Jésus l'a lavé. Et Jésus m'a pardonné. Et il m'a libéré ce jour-là. Il m'a libéré. Amen. Et puis, alors j'étais au chômage, hein, depuis un certain temps. Et voilà, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec Jésus. Je dis, je ne veux pas que ça s'arrête là, on va continuer. Et le Seigneur, il ne m'a pas demandé de lire la Bible et puis de l'étudier. Il ne m'a pas demandé de prier, puis non. Il m'a dit, il faut que tu achètes une batterie et que tu commences à me louer. Ouais, j'ai plus de travail, j'ai plus de revenus, et tu veux que j'achète une batterie et puis que je recommence à te louer. J'habitais dans un immeuble et j'avais une batterie acoustique, mais je vous dis pas les voisins, hein, on se serait très bien entendu tout de suite. Et du coup, bah, j'ai dit ok, je t'obéis, je fais ce pas. Et j'ai fait ce pas, j'ai acheté une batterie et j'ai recommencé à louer le Seigneur. Les moments, je pleurais, je jouais, je pleurais. Je jouais, je pleurais, mais je sentais une paix, un amour, une compassion. Je me sentais aimé. Je me sentais aimé, les amis. Et bah, suite à ça, j'ai recommencé à aller à l'église de Moudon. Et puis, bah, ça, j'ai repris goût à la vie. Moi qui ne voulais plus aller dans les églises, bah, je suis retourné à l'église. Rien n'est impossible aux yeux de Dieu. Et puis, bah, j'avais aussi à cœur de recommencer à lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Et je suis tombé sur Job, l'histoire de Job, qui a tout perdu. Et on sait comment l'histoire, elle se finit. À la fin, il est surbéni, on va dire ça comme ça. Il est béni en abondance. Et moi, j'étais encore dans cette période où je vivais encore le feu. Et on a eu un enseignement une fois à l'église de Moudon, sur Matthieu 6:6. Qui dit que quand tu pries dans ta chambre, bah, ferme la porte. Et le Père qui est déjà là, bah, il va t'accueillir. Il est là, il est dans le lieu secret. Et il te le rendra. Il te le rendra. Qu'est-ce qu'il va me rendre si je prie? Qu'est-ce qu'il va me rendre? Oh, bah, j'ai dit, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Autant essayer. Et je me suis couché. Et j'ai commencé à prier. J'ai fermé les yeux. J'ai prié. Et j'ai senti une main qui est venue sur mon épaule. Et j'ai entendu le mot « je t'aime ». Et là, je me suis réveillé en sursaut. J'étais là, ça y est, ça c'est l'ennemi. Il essaie de nouveau de me déstabiliser. Il s'est transformé en l'ange de lumière pour venir me foutre les jetons. Et j'ai dit « non, j'ai trop peur, je ne veux pas vivre ça ». La main, elle est revenue sur mon épaule. Et il m'a dit « n'aie pas peur, c'est Jésus et je t'aime ». Et là, j'ai vraiment senti une âme, un amour, une joie. Une paix. J'ai simplement reconnu Jésus, mais je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Souvent, on sait que Jésus nous aime, mais nous, est-ce qu'on l'aime aussi? Et là, ce soir, j'ai pu dire, bah, Jésus, moi aussi, je t'aime. Waouh, ça m'a libéré. Alors, il n'est pas venu pour rien. Ce qui est marrant, c'est qu'il savait où j'habitais. Hein. Il est venu dans ma chambre, dans mon lit, enfin, dans cette chambre-là. On a vraiment un Dieu individuel. Et puis, il m'a demandé de faire une chose qui a été très dure. Tu vas écrire une lettre à ton ex-femme et tu vas lui demander pardon. Quoi ? Moi, je dois demander pardon parce qu'elle, elle veut divorcer ? Oui, Dan. Ouh. Ah non, non, non. Moi, je ne suis pas OK avec ça. Il m'a dit, fais-le. Et j'ai repensé à cette histoire de batterie. J'ai simplement obéi. Ça n'a pas été facile de faire le premier pas, mais j'ai fait le deuxième pas. Et j'ai écrit cette lettre. Et moi, je ne suis pas un grand écrivain, enfin, la plume et moi, ça fait 22. Mais j'ai écrit cette lettre. J'ai fait 3 pages. 3 pages. Et vous savez quoi? La seule chose qu'elle a gardée de moi, c'est cette lettre. Et elle a accepté mon pardon, mes excuses. Et moi, ça m'a libéré. Ça m'a brisé ces chaînes-là. Et voilà, petit à petit, le Seigneur m'a sanctifié, toujours un peu plus, de manière différente. Il agit différemment dans chacune de nos vies. Et c'est ça qui est beau avec le Seigneur, c'est qu'il connaît tout. On a juste à monter dans cette barque, et c'est lui qui est au gouvernail et qui contrôle cette barque. Quand il y a des tempêtes, quand c'est plat, quand il y a du vent, quand il y a du brouillard, il est là, il est là. Il ne nous abandonne jamais. Et puis... Ben voilà, il y avait encore cette cigarette, ça me saoulait un peu, quoi. Je me sentais encore sale par rapport à ça, et puis je sais que le Saint-Esprit en moi, il était là, ah, ça va bientôt être l'heure d'arrêter de fumer. Et j'étais là, oh là là, toi, j'ai déjà fait ça, j'ai écrit la lettre, hein, mollo. Et un matin, je fumais une cigarette tranquillement, sur mon balcon avec mon petit café, et puis j'ai entendu cette voix dans mon cœur. C'est bon, c'est l'heure, c'est le jour, tu vas arrêter de fumer. Oh. J'étais à moitié prêt, on va dire. J'étais pas totalement prêt. Puis j'ai regardé mon paquet de cigarettes, il en restait 3 dedans. Je dis, ah, mais Seigneur, laisse-moi les finir, puis après j'arrête. Promis. On négocie des fois. Il m'a dit non, non. Cette fois, t'arrêtes de fumer. Troisième pas. J'ai dit ok, allez. J'ai pété mes cigarettes, je les ai mis à la poubelle. Et j'ai senti une peur qui m'a envahi vraiment très fort. J'étais chez moi, dans mon appartement, tout seul. Et j'étais complètement perdu. J'avais qu'une envie, c'était de retourner à la station-service pour aller m'acheter des cigarettes. Mais j'ai dit non, ça c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Ça c'est la solution facile. Et moi, je me suis assis dans mon canapé et la solution était encore plus facile. Mais je ne le réalisais pas tout de suite. Et j'ai prié, je dis, Seigneur, voilà. Quand je vois toutes les publicités qu'il y a sur les patchs, les putschs, les pitchs, l'hypnose, enfin, l'acupuncture, tous ces trucs-là, je dis, non, moi, je ne veux pas vivre ça, moi. Et j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de replonger. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et le Seigneur, il m'a aidé. Il m'a dit, ok, je vais t'aider. Il faut que tu trouves, à chaque fois que l'envie de la cigarette te prend, il faut que tu trouves un nom qui va déclencher qu'à chaque fois qu'elle vient, je viendrai pour te libérer de ça. Mais il m'a dit, il ne faut pas que tu prennes cigarette, tabac, vaporette, cigarette à rouler, enfin, j'en passe. Et j'étais dans mon canapé, je réfléchissais vraiment, ça dégoulinait hein, tellement que je réfléchissais. Et puis, il n'y a rien qui me venait. Retour à la source, Seigneur, j'ai pas d'idée, tu pourrais me donner un nom ? Il m'a dit, ouais. Tu prends un grain de sable. Un grain de sable, c'est tout petit dans ta vie. Et à chaque fois que le grain de sable y viendra, tu me dis, Seigneur, il y a le grain de sable. Et je viens et bam. Et j'ai vraiment vu cette main qui a fait bam. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que j'avais envie de fumer, qu'il y a ce grain de sable qui venait dans ma vie, bah, il repartait aussi sec. Parce que le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas retouché une cigarette. J'ai vraiment été délivré du jour au lendemain. Parce que je lui ai obéi, simplement parce que je lui ai obéi, je lui ai fait confiance. Et au début, je priais souvent le grain de sable. Je pense que toutes les 10 minutes, je devais prier le grain de sable, tellement ça venait fort. Et au fur et à mesure, je priais de moins en moins. Et maintenant, j'y pense quasiment plus. C'est très, très, très rare. Et puis, ben voilà, il restait encore le côté travail. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et un soir, je priais. Ah, tu vas devenir pasteur. Oui, je vais devenir pasteur. Moi, Dan, qui a fait toutes ces bêtises, je vais devenir pasteur. Ouais, tu vas devenir pasteur, Dan. J'aimerais que tu rentres en école de théologie. Ah, j'ai dit, là, il me faut une confirmation, parce que... je veux bien obéir, mais quand même, hein, Seigneur. 3 jours après, j'ai reçu un téléphone de mon frère. Ah, salut, Dan, comment tu vas et tout. Il m'a dit, toi, tu vas finir pasteur. Oh là là. Ah, j'ai dit, Seigneur, mais... Amen, amen. Et du coup, bah, je me suis inscrit à cette école de théologie, à la start-up, en 3e année maintenant. Et puis, voilà, Dieu, quand il nous appelle, Dieu, quand il y a un appel sur votre vie, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Il n'y a personne, parce que c'est votre place. Et votre place, il n'y a personne qui peut vous la piquer. Si vous n'allez pas à votre place, bah, l'ennemi il va tout faire pour saquer. Et ce n'est pas le but. On est tous appelés. On est appelé à vivre une vie chrétienne, non pas passive, mais active, les amis. Et vous savez, quand il reste 28,10 francs sur votre compte le 1er janvier, il faut oser. Mais j'ai osé. Et j'ai jamais manqué de rien. Parce qu'on a un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et s'il nous appelle, c'est qu'il a pensé au moindre détail que toi, tu aurais pu te poser comme question. Mais il a déjà pensé à ça. Amen. C'est vrai que je me sentais sale et incompris dans ce passé. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu vis ces temps. Je ne sais pas où tu en es, tes défis, ce que tu traverses. Mais j'ai envie de te dire ce matin, rien n'est impossible aux yeux de Dieu. Rien n'est impossible. Son bras, il est long. Et moi, j'étais vraiment dans un puits. Hein. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'échelle, rien. Bah, son bras, il est venu. Et j'ai juste un. Et lui, il m'a sorti, il m'a délivré. On a un Dieu de deuxième et troisième chance. Des fois, on ne touche pas la cible du premier coup. C'est pas grave. Continue de persévérer. Avance, persévère. Dieu, il va t'aider. Dieu, il va t'aider. Il ne t'abandonnera jamais. Il est toujours resté fidèle avec moi. Toujours. Et ça encore, je le proclame ce matin. Il a toujours resté fidèle. Même quand moi, je ne le croyais pas. Même quand moi, j'avais peur. Il était là. Il me dit, t'inquiète pas, ça va aller. Je suis là. Je vais t'entourer. Et je vais te sécuriser. par sa grâce. Si ce matin je suis là, c'est par sa grâce. Parce que sinon, je sais que je serais déjà où il ne faut pas. Et surtout par son Fils Jésus-Christ, qui est venu payer le prix. Il a payé le prix de sa vie pour ma vie. Il a pensé à vous sur la croix, à chacun d'entre vous. Il a pensé à vous tous. Vous êtes un cadeau sur cette terre. Vous avez de la valeur. Moi, j'aimerais que vous reteniez quelque chose ce matin, c'est que vous avez de la valeur à ses yeux. Peu importe ce qu'on dit de toi, tu as de la valeur, tu es précieux. Parce qu'il t'a créé à son image. Amen. Et j'aimerais vous laisser avec ce verset. C'est dans Romains 8, 1, qui dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur votre vie, les amis. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Amen.